Alors, j'espère qu'il vous a rassuré, Steve, mais c'est vrai que je suis de la région. De toute façon, vous allez l'entendre avec mon accent. C'est pas parce que je suis de la région parisienne depuis maintenant 21 ans que j'ai perdu mon accent. On me le dit souvent en région parisienne. Oh, tu viens pas d'ici, toi. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence dans l'accent, même en région parisienne. Ils ont un peu l'accent un petit peu plus pointu. Et malheureusement, ils n'ont pas le beau soleil que vous avez ici régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on est venu un petit peu le rechercher durant cette année. Alors, je me réjouis d'être ici, c'est vrai. Je suis issu de l'église de Draguignan. Je suis né spirituellement à l'église de Draguignan. À l'époque, il y avait Frédéric Fernandez qui était là-bas, le pasteur. Et donc maintenant, il est à la retraite. Il y a un autre pasteur là-bas que j'aurai l'occasion de voir dimanche. Donc, je ne sais pas si elle a changé l'église, sûrement de personne, parce que moi, j'ai connu des personnes il y a plus de 20 ans là-bas. Donc, voilà. En tout cas, je me réjouis d'être ici ce matin et de vous porter l'exhortation pour ce matin. Je vieillis, donc je suis obligé de mettre des lunettes. Voilà, c'est aussi le fait que quand je suis parti d'ici, je n'avais pas de lunettes. C'est en région parisienne que le médecin m'a dit gentiment, Nicolas, il faut que tu portes des lunettes maintenant. Donc, voilà, je mets mes lunettes. La période que nous venons de passer m'a fait poser personnellement à moi toutes sortes de questions. J'aurais aimé, avant le Covid-19, avoir une intimité avec le Seigneur. J'avais une intimité avec le Seigneur, mais j'aurais voulu que le Seigneur me dise à un moment donné dans mon culte personnel, Nicolas, on va vivre quelque chose d'exceptionnel pendant 3 mois. Alors on ne s'y attendait pas, personnellement, je ne m'y attendais pas, en région parisienne, de vivre cette période difficile. Aujourd'hui, on est en train de mettre toutes sortes de choses qui n'existaient pas dans l'église. Je viens de voir ici qu'on a des plots. En région parisienne, on a fait comme vous, hein, on a fait de la distanciation. Ce matin, ils doivent faire 2 cultes à l'église de Marolles-sur-Seine. On espère que ce genre de choses va s'oublier assez rapidement. Personnellement, je n'ai jamais parlé à des personnes avec des masques. C'est la première fois que je parle avec des personnes qui ont des masques en face de moi. Heureusement que vous me voyez, que je n'ai pas de masque, mais enfin, il y a une certaine distanciation, donc ça va, ça me rassure. Donc, la période que nous venons de vivre m'a fait poser des questions, et en mettant un petit peu en place donc, la prédication de ce matin, j'ai réfléchi à ces 2 versets que vous avez dans la parole de Dieu, puisque mon thème de ce matin, c'est « Enraciner et fonder ». Vous connaissez peut-être ces passages, il y a 2 versets qui en parlent. C'est l'apôtre Paul qui en parle dans les Épîtres. Tout d'abord dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3, verset 17, où l'apôtre Paul encourage l'Église dans l'amour du Christ, en disant ceci, Éphésiens chapitre 3, verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Donc ce passage, c'est dans un contexte de l'amour. Mais je voudrais prendre le deuxième, et c'est celui-là qui m'intéresse le plus ce matin dans mon exhortation, c'est dans l'Épître aux Colossiens, donc c'est toujours l'apôtre Paul, qui en parle dans Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Et là, c'est dans un contexte de l'action. Si vous lisez le passage, c'est dans les avertissements. Paul aimait beaucoup donner des avertissements sur les faux docteurs, mais c'est dans l'idée de l'action, et c'est ce texte-là que je vais récupérer ce matin pour l'exhortation de ce matin. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Alors c'est cette idée d'action, de marcher en lui, d'être affermi et d'abonder en action de grâce. C'est dans l'idée de l'action que je voudrais qu'on regarde ce matin. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais c'est quoi être enraciné et fondé en Christ? Quand on regarde l'Église de Jésus-Christ dans son ensemble, celle que vous avez ici à Fréjus ou l'Église universelle dans le monde, les membres de l'Église ont besoin d'être solides spirituellement. Et avec ce que nous venons de vivre pendant cette période, on a besoin d'être solides dans notre foi, d'avoir une certaine maturité chrétienne. J'ai entendu toutes sortes de questions. Le téléphone n'a pas arrêté de sonner à l'église de Marolles-sur-Seine. J'étais au bureau régulièrement et on me posait des questions toutes sortes. Et il y avait certaines fois, j'étais préparé à donner des réponses. Et puis franchement, il y avait des fois où je vivais les mêmes choses que eux et je n'étais pas toujours préparé. Et je demandais la sagesse et le discernement au Seigneur pour pouvoir répondre aux personnes qui me posaient ces questions de la vie de tous les jours. Donc on a besoin d'être préparé, de développer une maturité spirituelle, surtout dans ces périodes difficiles. Nous avons besoin d'avoir une intimité avec Dieu, d'être, je dirais, de ressortir de la chambre et de dire « Seigneur, c'était super ce moment de culte avec toi. J'ai eu l'impression que tu étais à côté de moi ce matin. » J'ai pensé durant cette période, j'avais envie de vivre la même expérience que Moïse. Vous savez, dans la parole de Dieu, Exode chapitre 20, 33, verset 11, on nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. » C'est pas merveilleux ça? Hein? Aujourd'hui, il y a de la distanciation. On est obligé de mettre 1 mètre, 1 mètre 50. Le Seigneur et l'Éternel parlaient avec Moïse face à face. Sans masque. Gédéon, dans le livre des Judes, quand il a vu l'ange de l'Éternel, le texte nous dit, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, a dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Ce genre d'expérience, on a besoin de les vivre en tant que chrétien, d'avoir une intimité proche avec le Seigneur. Mais cette intimité, si on n'a pas de racines, si on n'a pas un fondement en Christ, si on n'est pas enraciné en Christ, eh bien, automatiquement, ces moments, c'est pas possible de les vivre. Je voudrais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui voulait planter un arbre. Dans son cœur, quand il est allé l'acheter, il avait une grande espérance, un grand amour pour cet arbre. Il le tenait dans sa main. Et dans cet arbre, il y voyait tout un potentiel. Le fruit qu'un jour il cueillerait après des années de plantation. Et puis, un jour, il est arrivé devant cet arbre. Il voulait récupérer du fruit. Et il n'en a pas trouvé. Et l'histoire dans la parole de Dieu nous dit que le jardinier et le responsable lui dit « Laisse-le encore un peu. Je vais mettre de l'engrais. Je vais creuser tout autour de cet arbre. Laisse-le encore une année. Je vais m'en occuper. Et l'année prochaine, s'il ne porte pas de fruits, eh bien, on va le couper parce qu'il tient un sol là et je vais faire autre chose de ce sol. » Cette histoire se trouve dans l'évangile de Luc. C'est l'évangile de Luc, chapitre 13. C'est la parabole du figuier. Alors, je voudrais ce matin pas expliquer la parabole. Ce n'est pas mon but. Je laisse ça à Steve de vous expliquer la parabole du figuier. Je voudrais juste prendre la fin de cette parabole, c'est le vigneron qui dit ceci au verset 8 du chapitre 13. Le vigneron lui dit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » C'est cette partie-là que je voudrais développer ce matin avec vous. C'est l'idée que le vigneron dit, écoute, on va le laisser encore une année. je vais l'entretenir, cet arbre. Si l'année prochaine il donne rien, ou dans les années qui vont suivre, il donne rien, eh bien, tu pourras le couper. Il faut dire la vérité que le fermier, là, était un homme avisé, il connaissait son métier. On ne lui a pas raconté des balivernes. Vous savez, dans la région parisienne, quand vous apportez votre voiture chez le garagiste, il peut vous raconter n'importe quoi. Hein? Je suis tombé en panne en venant ici. J'avais un petit voyant qui s'est allumé sur la Berlingo. Et je me suis arrêté chez Peugeot. Très bon garage, Peugeot. J'ai rencontré un jeune là qui m'a dit, je gère. Je vais aller chercher un ordinateur et je vais voir assez rapidement ce qui se passe dans ta voiture. C'était apparemment un petit voyant qui s'était allumé parce qu'avant de partir, j'ai fait une révision et le mécanicien en Ile-de-France n'avait pas bien remis une prise. Et à cause de cette prise, un voyant s'est allumé. Et moi, j'ai paniqué en pensant, ça y est, je vais en vacances, je vais être obligé de faire des travaux dans ma voiture. Non, non, pas de panique. C'était simplement une prise qu'il fallait bien remettre, que le garagiste en région parisienne n'avait pas bien remis. Alors, merci Seigneur qu'il y avait là un bon garagiste qui est allé avec un ordinateur, qui a vu ma panne en région parisienne. Il m'aurait peut-être demandé 100 euros. Lui, il m'a rien demandé. Il m'a dit, pas, va en paix, va en vacances. J'ai eu la banane, comme on dit chez nous. Je suis reparti très heureux de cette explication. Mais c'est intéressant de voir dans ce passage que l'ouvrier veut se charger de cet arbre. C'est-à-dire qu'il veut y donner, je dirais, un deuxième espoir. Il veut développer, il veut s'occuper de cet arbre pour dire, écoute, il y a de l'espoir dans cet arbre. Il n'est pas fini. Je vais m'en occuper de cet arbre, je vais y mettre de l'engrais, afin que l'année prochaine, peut-être, il donne du fruit. Et le Seigneur, quand il se charge de nous, eh bien, on a besoin parfois de passer par certaines expériences de la vie pour nous faire grandir. Moi, j'avoue franchement que la période du coronavirus, alors je ne connaissais pas ce mot avant le confinement, mais j'avoue que cette période m'a fait grandir en Jésus-Christ, m'a enraciné et fondé en lui. C'est pas que je n'étais pas fondé ni enraciné en Christ, non. Mais cette période m'a montré que ces périodes peuvent nous déstabiliser parfois. Je suis quelqu'un qui a le diabète à l'heure actuelle, donc une personne à risque. Dans l'église, 3 personnes qui ont eu le coronavirus. Certaines, c'était... Ils ont passé ça tranquillement, mais d'autres, c'était vraiment beaucoup plus difficile. Je me dis, si je leur rends visite, et merci Seigneur, je n'ai pas eu besoin de leur rendre visite, que par téléphone. C'est bon la technologie, hein. J'ai pu rendre visite à ces personnes que par téléphone. Interdit d'aller les voir à l'hôpital. Et je dis à la rigueur, merci Seigneur, parce que j'aurais pu aussi atteindre le coronavirus avec ces personnes. Donc je dis... Quelque part, on a besoin d'être enraciné en Christ. Et Christ va s'occuper de nous, va permettre que nous puissions avoir des nouvelles racines qui vont se développer dans le sol, afin que nous puissions grandir à lui, d'avoir une meilleure intimité avec le Seigneur. Et je pense que ce besoin est important en tant que chrétien, d'avoir une foi plus forte en Christ. D'avoir un zèle plus fort en Christ, de résister à la tempête quand il y a une tempête. Nous avons besoin d'être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Quand on passe par les épreuves, on a besoin d'être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Quand on a un moment difficile dans la vie, on a besoin d'être enracinés et fondés en Jésus-Christ. Alors je voudrais vous montrer 2 choses importantes. Tout d'abord, l'importance d'avoir des racines profondes en Christ, d'être bien enraciné et de laisser le Seigneur bien cultiver notre sol pour que nous puissions développer ces racines bien profondes. Et puis les bénéfices que nous tirons de ces racines quand elles sont profondes. Tout d'abord, la première chose, c'est l'importance d'avoir des racines qui se développent en tant que chrétien. Malheureusement, bien souvent, on ne laisse pas le Seigneur agir. On ne laisse pas le Seigneur s'occuper de notre terrain. On ne laisse pas le Seigneur faire son travail, mettre de l'engrais. Non, Seigneur, cette partie, tu ne touches pas. C'est ma vie privée, tu ne touches pas. Ça, je peux te le laisser, mais ça, tu ne touches pas. Combien de fois dans ma vie, j'ai lutté avec ces choses qui me faisaient du tort. Et pourtant, quand j'ai laissé le Seigneur cultiver mon terrain, il m'a libéré complètement de ces choses-là. Avant d'accepter Jésus-Christ, je fumais. Et puis un jour, il y a un chrétien qui m'a dit « La cigarette, c'est un péché. » Ma première réponse, « Montre-moi le verset dans la Bible, que c'est un péché. » J'en ai pas trouvé, et pourtant je la connais la Bible, hein. Je n'ai pas trouvé de verset. Par contre, j'ai trouvé un verset dans la Bible, et c'est ce verset que j'avais besoin pour arrêter de fumer. « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Alors là, ça a changé ma vie. J'avais besoin de méditer sur ce verset, et je me dis « Merci Seigneur, parce que ce verset est arrivé au bon moment. » Ça fait presque 30 ans que j'ai arrêté de fumer. Je suis un homme libéré. Il y a d'autres choses encore que le Seigneur doit me libérer. Mais vous savez, des fois, on cherche à avoir les versets qui nous intéressent, à nous. On aimerait avoir les versets qui nous correspondent. On aimerait avoir les mêmes relations que Moïse avait. Seigneur, voilà, Nicolas, là, il y a quelque chose là que tu dois abandonner. Et pourtant, le Seigneur nous montre parfois certaines choses et on ne laisse pas le Seigneur travailler notre terrain pour que nous puissions développer les racines. Donc je voudrais vous montrer l'importance d'avoir des racines, d'être fondé et enraciné en Christ. Je voudrais vous parler de la parabole. Là encore, je ne vais pas vous expliquer la parabole. Je laisse Steve vous expliquer cette parabole. Il prendra le temps de vous l'expliquer. Mais je voudrais juste en retirer deux versets de cette parabole. C'est la parabole du semeur. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, cette parabole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. Et voici ce que cette parabole dit à un moment donné, donc dans le verset 20 et 21 du chapitre 13. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès qu'il survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Combien de fois ai-je entendu après le culte, « Nicolas, ton message était vivant. Il m'a parlé ce matin. Il m'a encouragé ce matin. » Et dans la semaine, la même personne qui me téléphone et qui me dit « Nicolas, j'ai besoin d'être encouragé. » Je dis « Mais attends, si le message t'a parlé du dimanche, en principe, il devrait te servir pour 7 jours. » La semaine prochaine, je t'en prépare un autre, et la semaine prochaine, je pourrais t'en donner un autre. Non, durant la semaine, il me rappelle pour être encore encouragé. Parce qu'il a eu quelque part, durant la semaine, quand il a passé la porte de l'église, il a complètement oublié ce que le prédicateur avait dit, et il s'est mis d'autres choses dans la tête. Il a eu une période, je dirais, de tribulation, une période, je dirais, de persécution dans sa vie, et il a oublié tout simplement ce que le Seigneur lui avait dit durant la semaine. Mais on fait tous comme ça, hein. On est tous comme ça. Des fois, on entend de bonnes prédications, on sait qu'il y a des choses qui doivent être changées dans notre vie. On sait qu'il y a des choses que nous devons mettre en place dans notre vie. On sait qu'il y a des choses qui doivent être, je dirais, modifiées dans notre vie. Changer un caractère, une attitude, un comportement. Quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. On sait qu'on doit le mettre en pratique. Et pourtant, quand on a passé la porte de l'église, nous avons oublié. Mon épouse travaille dans une EHPAD. Et elle travaille avec des personnes qui ont l'Alzheimer. Alors, régulièrement, les discussions à table, c'est « Voilà, une telle personne m'a donné un coup de bâton ce matin. Elle a oublié que j'étais là pour la soigner. » Alors, si vous parlez avec mon épouse à la fin du culte, elle va vous raconter toutes sortes d'expériences qu'elle vit. Je connais par A plus B comment ça se passe dans cette EHPAD. C'est difficile, vous savez, de vieillir. et de ne pas voir que les personnes sont là, qu'ils vous aiment, ils veulent votre bien, et au lieu de leur dire merci, on donne des coups de bâton. Et pendant la période du coronavirus, eh bien, mon épouse a reçu, je ne sais pas si elle a reçu plusieurs coups de bâton, mais malheureusement, eh bien, ces personnes-là ne l'ont pas toujours aidée. Et dans la période que nous venons de passer, alors maintenant on a des masques, on les trouve, hein, même en région parisienne, on les trouve par terre, hein, c'est une honte. Hein. Mais je ne sais pas ici, mais c'est vraiment, avant on ne les trouvait pas. Maintenant on les trouve par terre, mais pour vous dire que c'est une période difficile. Et je me dis, s'il n'y avait pas ces racines profondes en Christ, eh bien, on pouvait être aussi déstabilisé. L'homme a besoin de racines, de persistance. Un chrétien a besoin de ça pour vivre sa foi. Le texte nous dit qu'il manque de persistance. Il a manqué de persistance. Il a entendu la parole, mais il n'avait pas de racine en lui-même. Donc, il n'a pas laissé le Seigneur agir dans son cœur pour pouvoir développer les racines. Le mot grec, c'est prokéros. Souvenez-vous de ce mot. Je reviendrai à la fin du culte, la fin de l'étude pour cela. Prokéros, un bref temps, nous dit. Je reçois quelque chose, mais pour une période, je dirais, limitée. C'est une personne qui n'est pas enracinée, pas de conviction, pas de consistance. Quelqu'un qui n'a pas d'ancrage dans sa foi. C'est un vagabond, c'est un mercenaire. Quelqu'un qui, je dirais, ne laisse pas le Seigneur agir dans son cœur. Qui passe d'un lieu en lieu. D'une idée à une autre idée. En région parisienne, comme peut-être ici, nous avons des personnes qui viennent un dimanche matin, on les voit, elles sont toutes gaies, elles sont toutes réjouissantes. Et puis la semaine d'après, on ne les voit plus. On se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour qu'elles ne soient plus là? Depuis notre ministère à mon épouse, on aurait pu construire 4 églises en région parisienne. Il y a eu au moins, et sans plaisanter, au moins 400 personnes qui sont passées dans notre église depuis 20 ans que nous sommes à Marolles-sur-Seine. On aurait pu construire 4 églises. Mais certaines personnes, c'était littéralement des vagabonds. C'est des personnes qui promènent d'église en église, c'est-à-dire qui n'ont pas de stabilité. C'est triste de voir ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais je pense que nous ne sommes pas des mercenaires, nous ne sommes pas des vagabonds. On a besoin d'être des personnes qui avons des convictions, d'avoir des personnes, comme Steve l'a rappelé, d'avoir des personnes de paix. Hein. Le monde a besoin de paix. Il a besoin de voir en nous des gens de paix. Des gens qui sont autour de nous ont besoin de cela. Et nous avons besoin de cela dans ce monde qui va en perdition. En mai 2019, le Seigneur nous a permis d'aller visiter un État aux États-Unis, l'Arizona. Je ne sais pas si vous connaissez l'Arizona. Nous avons des amis, s'appellent les Blanchard, Tom et Lucie Blanchard. Ils ont travaillé en tant que missionnaires ici en France pendant quelques années. Aujourd'hui, ils sont à la retraite, donc ils sont allés se rapprocher de leurs enfants, enfin, une fille qui est en Arizona, donc à Phoenix, ils habitent à Phoenix. Et en 2019, le Seigneur a permis, après avoir fait un voyage missionnaire aux États-Unis, dans une église qui nous soutient, en Virginie, eh bien, nous avons pris l'avion et nous sommes partis en Arizona. Un État merveilleux. J'avais jamais vu de ma vie autant de cactus que j'ai vu là-bas. Jamais de ma vie j'avais vu autant de cactus. J'en ai vu quelques-uns sur les balcons de certaines personnes, des fois dans certains jardins. Mais là-bas, il y a des cactus de partout. Plus de 2000 variétés de cactus dans l'Arizona. Alors, bien sûr que Tom et Lucie nous ont dit, on va visiter un parc national qui existe pas très loin. On a une carte pour les retraités et on va vous faire profiter de ce parc national. Alors, bien sûr qu'on s'est réjoui d'aller dans ce parc national et on a visité tous les cactus qui pouvaient exister dans l'Arizona. Des grands, des moyens, des petits, des tordus, des pas tordus, des explications. Savez-vous que les Indiens, dans cet état, fabriquaient des cabanes avec les cactus? Aujourd'hui, ils fabriquent des bonbons avec des cactus. Il y a de la confiture avec des cactus. Il y avait toutes sortes d'imaginations qu'on pouvait aimer ou pas aimer le cactus. Personnellement, j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait faire autant de choses avec un cactus. Moi, le cactus, j'en ai connu dans le sud de, l'Italie, mais je ne les touche pas, c'est les figues de Barbarie. Par expérience, je suis allé chercher, quand j'étais plus jeune, dans le sud de l'Italie, en Calabre, ma mère a dit, allez, va récolter des figues de Barbarie. Et moi, qui suis allé avec mes mains, j'ai pris une fois une figue de Barbarie. Ça, vraiment un bon souvenir, hein. À la fin, ma mère, avec une épingle, m'a enlevé les cactus que j'avais mis dans ma main. Eh bien, là, ça m'a fait penser à cette affaire de cactus qui pousse dans très peu. Ils ont très peu de racines, mais ils savent se développer dans le désert. Et durant cette promenade dans le parc national en Arizona, nous avons fait la rencontre d'un petit arbrisseau qui est là, dans ce pays. Vous connaissez peut-être, on en voit souvent dans les films western. C'est le virevoltant. Pour les Anglais, c'est le tumbleweed. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Hein? John Ford et les autres ont pris ce cactus, tout petit, cet arbre tout petit. Il pleut, il pousse dans la nuit, et le matin, comme il n'a pas de racines, eh bien, le vent vient les chasser et il roule à l'infini. Et puis de temps en temps, vous en trouvez un dans un western, vous dites, mais pourquoi ces cactus sont là? Mais voilà, ça fait partie en tout cas de la culture de là-bas. Eh bien, ces cactus sont là pour montrer en tout cas que c'est des choses qui sont un peu fragiles, malheureusement, mais elles partent très vite, ces plantes, parce qu'elles n'ont pas de racines. Les virevoltants n'ont pas de racines. Elles n'ont pas laissé développer dans le sol les racines. Les virevoltants dans l'église d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. D'hier, vous avez un certain Démas dans le livre de Timothée. 2 Timothée chapitre 4 verset 9. Démas m'a abandonné par l'amour pour le siècle présent. C'était un virevoltant celui-là. Paul dit clairement qu'il a abandonné le Seigneur pour le monde présent. Mais combien de personnes abandonnent aujourd'hui pour le monde présent? J'en ai connu, j'en connaîtrai encore, mais des personnes comme ça, j'en ai connu dans mon ministère. Et ça me fait de la peine de voir qu'elles n'ont pas laissé développer les racines dans leur sol. Vous avez d'autres personnages dans la Bible, toujours l'apôtre Paul, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 17. Vous avez Hyménée et Alexandre, une conscience perdue et naufragée par leur foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont fait naufrage dans leur vie de tous les jours. Et l'apôtre Paul, il dit qu'une conscience perdue. Mais combien de gens perdent leur conscience aujourd'hui? Combien de gens oublient ce que le Seigneur a fait pour eux? Combien de gens aujourd'hui, et nous les premiers, perdons confiance quand on passe par un moment difficile? Quand on passe par une tempête, combien d'entre nous, parfois, perdons naufrage? Nous nous mettons toutes sortes d'idées dans notre tête. C'est pas parce que je suis responsable d'église que je ne doute pas. Il m'est arrivé de douter, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'est arrivé de douter, surtout au début du coronavirus. Seigneur, tu ne vas pas me faire mourir du coronavirus, mais ce n'est pas un bon mot ça. Je préfère mourir dans mon lit, tu me laisses dans le lit, je meurs tranquille, on n'en parle plus, demain matin je ne me réveille pas, mais tu ne vas pas me faire mourir du coronavirus. Tout seul dans une chambre. La première, c'était 1 Timothée chapitre 1 verset 20. C'est Irénée et Alexandre. Et le deuxième, c'est un Philète. C'est 2 Timothée chapitre 2 verset 17. Il s'est détourné de la vérité. Voilà les personnes d'avant. Les personnes d'aujourd'hui. Ce sont des gens qui abandonnent aussi très vite leur foi. Ce sont des gens qui sont pas sûrs de leur enseignement. Ce sont des personnes qui ont pas beaucoup d'intérêt dans la vie spirituelle de l'Église. Ce sont des personnes qui rencontrent des difficultés. Quand les difficultés arrivent, ils repartent dans le monde. Ce sont des personnes qui n'ont pas, sont pas solides, qui ne sont pas ancrées, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas laissé le Seigneur travailler leur sol. Qui n'ont pas laissé le Seigneur mettre de l'engrais. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà senti le fumier. Ça sent mauvais. L'engrais, ça sent mauvais. Mais pour éliminer le péché dans notre vie, on a besoin de l'engrais du Seigneur pour qu'il vienne nous purifier de certaines choses. Et dans nos vies, on a besoin de l'engrais spirituel du Seigneur. Les pierres de la confession. Combien de fois j'ai lutté avec cela dans ma vie personnelle. Et de savoir que Dieu, eh bien, si nous venons au pied de la croix, oublie tous nos péchés. Si nous venons au pied de la croix, il va effacer complètement nos péchés. C'est-à-dire pour Christ, si Dieu vous regarde aujourd'hui, il ne voit plus Nicolas, il voit Christ au travers de Nicolas. C'est quelque chose de merveilleux. Voir Christ au travers de moi, Dieu est fort. Hein. Dieu est puissant. Hein. Parce que quand je regarde ma vie, elle n'est pas si propre que ça. Mon terrain avait des obstacles. Il avait besoin d'engrais, de nourriture, de purification. Et le Seigneur a tout fait pour m'aider et il m'aide encore aujourd'hui. C'est important de laisser le Seigneur agir dans notre vie afin que nous ne devenions pas des virevoltants. Des personnes qui oublient l'enseignement. On a besoin d'être fondés en Christ. Et le monde va vous le rappeler. Hein. Quand certaines personnes vous posent certaines questions, waouh, il faut être alerte. Hein. Il faut avoir du discernement hein, pour répondre à certaines personnes aujourd'hui. L'importance de laisser développer les racines avec le Seigneur. Deuxième, les bénéfices des racines. Vous connaissez sûrement le psaume premier, mais je voudrais vous lire Jérémie qui est le même parallèle du psaume premier, mais je vais rester sur Jérémie chapitre 17 et je vais lire les versets 7 et 8 du chapitre 17 de Jérémie. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et donc l'Éternel est l'espérance. » Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Si vous regardez les cactus, ils portent du fruit même dans le désert. John Wayne, paraît-il, a essayé un jour de casser un cactus pour essayer de récupérer de l'eau. Mais il n'est pas arrivé, c'est l'histoire en tout cas qui nous le dit. Mais si vous allez dans le désert, il y a certains animaux qui veulent récupérer l'eau dans les cactus. Il y en a un qui est vraiment superbe, je ne me souviens plus le nom, mais quand un animal vient pour grignoter le cactus, il lui envoie des feuilles avec des cactus, bim, dessus pour pas que l'animal vienne lui grignoter le cactus afin de ne pas le détruire. Il a développé toutes les capacités pour éviter qu'il perde son temps, l'animal, là. Mais quand vient la chaleur, n'est-ce pas? Eh bien, on doit réagir la même chose que ce cactus. Et il arrive parfois que nous sommes en pleine chaleur et on a besoin de développer des racines afin de pouvoir tenir ferme dans notre monde. On a besoin d'aller vers l'eau vive. Hein? Vous connaissez ce passage dans l'évangile de Jean. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. J'ai médité pendant des années sur ce passage. Des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Il y a des fois, je suis allé voir le Seigneur j'en suis ressorti avec une petite source. Il y a des fois, c'était les chutes du Niagara. On y a été récemment. Je n'ai pas vu l'oiseau. Il n'est plus là apparemment. Mais c'est merveilleux, n'est-ce pas, de laisser le Seigneur agir dans notre vie. Des fleuves d'eau vive vont couler. La paix, l'espérance, l'amour. Si on s'approche de Dieu, toutes ces choses, il va nous les donner en abondance. Même dans les périodes, je dirais, de sécheresse, on aura une stabilité. Le vent va venir, on ne va pas être déstabilisé. On va se réjouir dans le Seigneur. On va rester un arbre verdoyant. Vous savez, dans la Bible, si vous lisez la Bible, si vous la connaissez, la Bible, on a mis en place dans notre église à Marolles-sur-Seine la lecture de la Bible pendant une année. Il y a certaines personnes qui n'avaient jamais mis en pratique cela dans leur vie personnelle. Et certaines personnes m'ont dit récemment, « Wow, c'est superbe ce que tu nous as demandé à faire. » Bon, il y avait un vrai besoin, apparemment. Certaines continuent à lire quelques versets comme ça de temps en temps. Il y a encore du travail là à faire, mais c'est passionnant de lire la Bible. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'Évangile. Je me suis converti en 1984. Je n'ai pas arrêté de lire la Bible. Et à chaque fois que je lis la Bible, donc tous les jours pratiquement, j'y trouve toujours une perle. J'y trouve toujours quelque chose que le Seigneur veut m'encourager régulièrement. Donc c'est quand même quelque chose de formidable. Ça permet quoi, frères et sœurs? Ça me permet d'avoir de la stabilité dans ma vie de tous les jours. Ça me permet d'avoir de la force avec le Seigneur. Ça me permet d'avoir des racines profondes avec le Seigneur. Ça me permet d'avoir la banane. Quand c'est nécessaire d'avoir la banane, je vous rassure, je n'ai pas toujours la banane. Hein. La banane, c'est le sourire, hein. Vous savez, je n'en ai pas toujours. Hein. Mais, vous savez, quand on est proche du Seigneur, c'est vrai, je ne suis pas Moïse, hein. Mais j'aime cette relation avec le Seigneur, d'être proche du Seigneur, de savoir, voilà, je serai avec toi, t'inquiète pas, pendant cette période... Quand tu vas passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je vais être avec toi, t'inquiète pas. Je suis là pour te rassurer, te fais pas de bile. On a besoin de notre Seigneur afin d'être enraciné et fondé en lui. Le Seigneur nous a donné des promesses dans sa parole pour avoir une petite perle. Il y a quelque temps, en méditant la parole de Dieu, je voyais souvent dans ma lecture « ne crains pas » ou « ne t'effraie point ». Vous savez cette petite expression que vous avez dans la Bible, hein? Savez-vous, quelqu'un les a comptés, John Alexander, qui est décédé, qui est auprès du Seigneur maintenant. Il s'est mis à les compter dans la Bible. Il y en a 366, paraît-il, dans la Bible. Si vous faites votre calcul... Je ne suis pas un grand mathématicien, mais si vous faites votre calcul, il y a 365 jours dans une année. Le Seigneur a même pourvu, ne crains pas, pour les années bissextiles. C'est pas merveilleux ça? C'est-à-dire que tu peux aller tous les jours dans ta Bible et trouver le fait « ne crains pas ». Je serai avec toi. Aujourd'hui, demain matin, quand tu vas te regarder devant la glace... Ne crains pas, je vais t'accompagner aujourd'hui, je serai avec toi. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux et pourtant je ne suis pas un grand spécialiste. Je ne les ai pas tous notés, moi, c'est ne crains pas ou ne t'effraie point. Mais je me dis c'est quelque chose de merveilleux de voir que dans la Bible, il y a quand même une perfection. Le Seigneur a laissé des petites perles dans la Bible afin qu'on puisse grandir dans notre foi. Alors en conclusion... Est-ce que vous êtes enraciné et fondé en Christ? Personnellement, je le suis de plus en plus dans ma vie. Je suis quelqu'un qui est enraciné et fondé en Christ. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui est enraciné et fondé en Christ? Est-ce que vous êtes un prokéros? Vous vous souvenez du mot prokéros? C'est sans persistance dans la Bible. Quelqu'un qui est sans conviction, sans consistance, sans ancrage. C'est le mot grec dans le Nouveau Testament, prokéros. Un virevoltant. Je l'ai modernisé. Alors, je ne vous souhaite pas d'être un cactus, mais un virevoltant. Quelqu'un qui n'a pas de persistance, qui ne laisse pas se développer les racines, qui ne laisse pas le Seigneur agir dans sa vie personnelle. Ou sinon, je vais vous apprendre un deuxième mot dans la Bible, un risou. Vous savez ce que c'est un risou? Alors, ce n'est pas un mot provençal. Ce n'est pas du tout un mot provençal. C'est dans la Bible, c'est le mot grec pour enraciner. Si vous connaissez, si vous aimez la parole de Dieu, vous regardez ce mot dans la Bible, donc c'est risou en grec. Donc c'est le mot pour enraciner. C'est quelqu'un qui est une personne qui est renforcée par ses racines, qui est ferme, qui est fixe, qui est établie. C'est une personne qui est complète, donc qui est enracinée. Et dans notre monde d'aujourd'hui, on a besoin d'être des risous, des personnes enracinées en Christ et fondées en Jésus-Christ. Amen. Je vais finir par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps d'étude de ta parole, ce temps, Seigneur, où nous avons vu que c'est vrai, c'est important d'être enraciné et fondé en Jésus-Christ. L'Église primitive avait besoin. Et si l'apôtre Paul a enseigné l'Église de Colosse et l'Église de Philippe, des Éphésiens, à être enracinés et fondés, nous aussi, en Jésus-Christ, nous avons besoin d'être enracinés et fondés dans l'amour, mais aussi dans l'action de notre quotidien. Nous avons besoin d'être enracinés et fondés en Christ. Seigneur, reprends-nous à être des risous, à être des personnes avec des convictions, à être des personnes persistantes, fixes, à être des personnes solides, à être des personnes, Seigneur, qui